Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes. Qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins qu'à celui lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil ou un chef de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous voilà de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Judith Couche. Judith, bonjour.
Bonjour.
Alors, Speedball, une histoire illustrée des drogues. C'est ton livre autoproduit, donc c'est toi l'autrice et surtout la productrice du livre. On peut l'obtenir à Publico. 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. Judith, cet almanach de à peu près 250 pages, j'aimerais, avant qu'on ne commence à rentrer dans le vif du sujet, lire l'avertissement, et c'est la première fois que je lirai un avertissement légal, mais vu le sujet, on n'est jamais trop prudent. Alors, l'article L3421-4 du Code de la santé publique interdit la provocation à l'usage des stupéfiants ou de substances présentées comme telles, même si cette provocation est restée sans effet. Il est interdit également la présentation sous un jour favorable, y compris par voie de presse, des lois des faits d'usage ou de trafic de stupéfiants. MILDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues, et les conduites addictives. Donc, tu as averti que ton livre Speedball, il y avait certaines images qui pouvaient heurter la sensibilité. Donc,
j'ai préféré avertir en effet quand je dis que certaines images peuvent heurter la sensibilité, mais j'étais obligée de préciser que je ne cherchais pas à prôner en aucun cas l'usage des drogues, ni en faire la promotion, ce qui était très important pour moi. Donc je parle d'une expérience, je parle d'une réalité. Oui. Cette réalité, malgré la répression, malgré les lois, malgré le fait que c'est un problème social qui existe.
Et sanitaire.
Et sanitaire, bien sûr. Donc j'étais quand même obligée de tenir compte de la loi pour pouvoir expliquer que la démarche, elle était dans un but préventif, si tu préfères.
Oui, je préfère. Alors, dans le but préventif, je voudrais que tu te présentes un peu plus. Et parce que si j'ose dire, l'almanach est d'autant plus précieux et bien écrit, très bien écrit, parce que tu sais de quoi tu parles, si je puis me permettre, Judith.
Oui, en effet, si tu veux, cette initiative, je l'explique un petit peu au début du bouquin, c'est qu'au départ, j'étais en contact avec Jimmy Kampfer, qui faisait partie d'une association qui s'appelle ASUD. Et il avait en tête de faire une exposition sur l'opium. Parce que je venais de faire une exposition sur l'histoire du rock en 2008-2009. Et à partir de cette époque, il m'a proposé, il m'a dit « Ah, ça serait bien, moi j'ai beaucoup d'illustrations, j'ai beaucoup d'œuvres, d'archives que j'ai collectionnées. » Et il me dit « J'aimerais bien faire une exposition. » Moi, j'avais trouvé l'idée géniale. Entre-temps, il est décédé. Et donc, j'ai réussi à récupérer une grosse partie de tout le travail qu'il avait scanné. Entre autres, il y avait aussi d'autres choses que l'histoire de l'opium, d'autres images sur l'histoire de l'opium ou sur les opiacés. Il y avait en effet, dans ses archives, dans sa collection, toutes les drogues. Et comme je ne pouvais pas faire cette exposition, j'ai eu l'idée de faire un livre. Je me suis dit, ça serait bien de commencer par faire un livre avec ses illustrations. C'est pour ça que je parle de l'image. Je dis que certaines images peuvent choquer la sensibilité de certaines personnes. Donc, c'est comme ça l'idée.
Et l'iconographie, elle est tellement incroyable que ça mérite déjà le livre. Mais les textes qui accompagnent l'iconographie sont précieux, notamment sur le plan historique, parce qu'il y a un contexte. Quand on parle de drogue, on parle tout de suite du contexte répressif, faut-il légaliser. On oublie de dire que les drogues existent depuis la nuit des temps, qu'elles ont accompagné les cérémonies religieuses, l'initiation et tout le reste, et que c'est un continuum dans la vie de l'humanité. Donc ça, tu l'expliques bien dans ton livre.
C'est la première chose qui me paraissait le plus important dans l'explication de l'usage des drogues. Alors, les mots que j'utilise, comme tous ces mots, ces associations, c'est toujours par rapport à la législation. Donc j'étais obligée de twister un petit peu là-dedans. Mais dans la réalité, en fait, d'abord, les drogues, on ne dit jamais la drogue, c'est les drogues, ça c'est très important. À partir du moment où on parle d'une drogue, de la drogue, c'est déjà pour moi, je pense que c'est une erreur. C'est évident qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de substances.
Il y a des licites et des illicites.
Alors, il y a les drogues licites qui ne sont pas reconnues et les drogues illicites qui ne sont pas reconnues par tous les personnages politiques qui sont en ce moment ou depuis un certain temps, dont certaines personnes n'ont jamais voulu reconnaître, par exemple, que l'alcool était une drogue licite. Mais enfin, nous, on l'a classé, comme beaucoup d'autres organisations, on la classe bien sûr comme une drogue. Mais c'est surtout que ce qui est important, c'est de parler de l'histoire. Pourquoi j'ai mis l'histoire illustrée ? Parce que c'est l'histoire qui commence, il y a un début dans une histoire. Et à l'origine, les drogues, ce sont des médicaments. Donc ce sont vraiment... Les drogues n'ont jamais été perçues autrement dans l'histoire humaine, mondiale, comme des médicaments. C'est-à-dire des substances qui sont utilisées pour soigner des tas de problèmes, des tas de mal, des tas de
pathologies.
Oui, de pathologies, que ce soit par exemple l'utilisation du cannabis. À l'époque, ils ne le fumaient pas, ils rentraient dans des tentes. Ils rentraient dans des tentes pour asperger, pour renifler comme ça les fumées de cannabis. On l'utilisait aussi en confiture pour les femmes enceintes, pour adoucir les douleurs d'accouchement. Il y a un éventail de substances suivant la région géographique qui sont utilisées. Et cette histoire qui est intéressante, c'est que justement, quand on prend par exemple l'histoire du cannabis qui vient de la région de Turkménistan, on la voit qui a été transportée par les Scythes, qui est arrivée dans le Levant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Phénicie, Palestine, Israël, jusqu'en Égypte, etc. Et les drogues ont voyagé avec les êtres humains. L'opium, pareil. L'opium, c'est une... Voilà, toutes les plantes, la cocaïne, la coca, qui vient d'Amérique du Sud, elle a voyagé bien plus tard, bien sûr, mais il y a toute une histoire de voyage avec les êtres humains. Et à chaque fois, il y a des utilisations, c'est expliqué dans le livre.
Ouais. C'est très bien expliqué dans le livre.
Parce que c'est hyper important d'avoir expliqué ça. Parce que donc c'est l'utilisation à chaque fois, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, à l'instant, il y a plusieurs utilisations. Il y a l'aspect rituel, religieux, et l'aspect médical. Donc on le retrouve dans l'Héber papyrus de l'Égypte pharaonique, sur l'utilisation, les multiples recettes qu'il y a d'utilisation du cannabis avec d'autres plantes, d'ailleurs, d'autres racines. Il y a tout ça, c'est utilisé. L'opium, en l'occurrence, dans cette région entre l'Afrique et le Levant, ils utilisaient principalement le cannabis et l'opium. Parce que c'était des outils de guérison. Il n'y avait pas d'autres moyens, surtout l'opium. L'opium, c'est l'antidouleur par excellence.
Tout à fait.
C'est il n'existe pas une plante dans le monde qui peut supprimer la douleur comme l'opium. Le cannabis, c'est différent, mais ça aussi, ça atténue la douleur. Mais pas de la même manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a aussi les combinaisons. Mais pour revenir à la genèse, on va dire, de cette histoire, il fallait que ça passe vraiment par l'Antiquité. Donc d'aller chercher dans la Bible, d'aller chercher dans les papyrus égyptiens, d'aller chercher bien sûr chez les Incas, ça c'est pour la coca, mais pour l'Asie, pour l'Afrique, notamment pour l'Asie, c'est-à-dire l'Inde, aller chercher en Chine, aller chercher en Inde, les origines
en sanskrit et tout ça.
Oui, puis les origines dans tous les manuscrits, l'utilisation qu'ils avaient des drogues, et c'est vrai qu'il y a toujours les deux pôles, c'est-à-dire le côté rituel, religieux, spirituel, et le côté médical. Donc ça, c'est l'histoire originelle des drogues.
De l'humanité.
Et de l'humanité qui colle complètement avec l'histoire même des migrations. Il y a vraiment un lien qui est extraordinaire. Par exemple, les Scythes, ils enterraient leurs reines avec du cannabis, avec des plantes, des graines. Dans les tombeaux, on a retrouvé l'utilisation qu'ils avaient. Les Scythes, c'est la région Ukraine aujourd'hui. Mais c'était des peuples nomades. Donc, c'est eux qui ont amené, par exemple, c'est eux qui ont amené au Levant la plante. Elle a voyagé, elle a fait tout le tour comme ça, jusqu'en Afrique après. Donc, à chaque fois, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas comparer avec ce qui se passe pour nous aujourd'hui.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Non. Mais ça, on le verra bien.
Oui, bien sûr.
On le verra bien
mais
ensuite.
C'est difficile pour les gens de comprendre qu'il n'y avait pas cette diabolisation pour la simple raison que c'était des outils. C'est comme si on te dit aujourd'hui, tu vas te passer de l'aspirine quand tu as mal à la tête. Ah ben non, tu ne peux pas prendre de l'aspirine parce que c'est une drogue. Bah, c'est un médicament. Donc, chaque médicament, en plus de ça, chaque drogue, donc, avait des effets secondaires.
Qu'ils étaient bien répertoriés. Et ça, tu le montres bien. Combien de temps ça t'a pris
Ça m'a pris 5-6 ans, parce que j'ai toujours eu un blocage de m'exprimer par écrit. J'avais pas confiance en moi au tout départ. Et j'avais surtout une angoisse. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai signé Judith Couche. Parce que je ne voulais même pas signer mon nom de naissance. Quoi.
D'accord.
Tellement j'étais angoissée par le fait de parler des drogues.
D'accord.
J'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à l'accepter et à pouvoir en parler en public.
Et en tout cas, le livre est brillant. Sinon, je ne le dirai pas. Alors, la législation sur les stupéfiants, ça date vraiment du XXe siècle.
Oui, ça a commencé, en fait...
Les ennuis, là-dessus, commencent au XXe siècle.
Ça commence, je crois...
Siècle dernier.
Avec Pétain. Dans les années 30.
Voilà.
Quand il a interdit aussi l'avortement.
Tout à fait.
Mais en fait, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu une époque totalement libre.
Et on le voit dans l'iconographie.
Ouais, on le voit, l'utilisation du cannabis.
Il y avait des publicités même qui vantaient les vertus de cette drogue.
Alors, c'est-à-dire que la législation, elle a twisté quand il y a eu le début aussi de la synthétisation des matières organiques psychoactives, que ce soit l'héroïne, c'est-à-dire l'opium, qui a donné la morphine et l'héroïne, la coca, qui a donné la cocaïne, le cannabis, qui était utilisé. Il n'y a pas eu à l'époque encore de trucs synthétiques, ça s'est venu beaucoup plus tard. Hein. Mm-hmm. Mais quand il y a eu la synthétisation des produits, de toutes les plantes, parce que je donne une recette d'une vieille recette où il y a à peu près une centaine de plantes qui sont mélangées, qui étaient comme qui pouvait tout soigner, je ne me souviens plus du nom.
Ça y est, j'ai un trou, moi aussi.
Bon, voilà, donc c'était... On remarque qu'il y avait des tas de plantes donc qui servaient de médicaments.
Tout à fait.
Que ce soit...
mais les plantes servent de médicaments.
Oui, voilà, mais à l'époque, donc on est dans cette époque charnière où ils ont trouvé des synthétisations des plantes qui étaient utilisées pour soigner, mais de manière organique, c'est-à-dire de manière naturelle, sans qu'elles soient synthétisées. Quand ils ont vu qu'il y avait une synthétisation possible avec un pourcentage vraiment beaucoup plus concentré...
Les ennuis ont commencé.
Bah, avec les apothicaires, donc, et c'est là que la loi a changé et qu'ils ont commencé à changer la loi par rapport au cannabis, à la cocaïne et aux opiums. Après, alors, sur l'opium et le cannabis, c'est pas les mêmes.
On y reviendra là-dessus. Voilà. En fait, le personnage de Pétain est d'autant plus dangereux, si j'ose dire, vu ce qu'il a fait ensuite pour le pays. Mais le XXe siècle est le siècle qui pose problème pour la législation, parce que c'est pas qu'un seul pays, c'est des pays concentrés. Il y a la législation, page 12, la législation des stupéfiants. Il y a 176 pays, je crois, d'un seul coup, qui acceptent de légiférer et de signer une charte.
Alors c'est ça. C'est-à-dire que ça a fait un effet de
domino.
Exactement, ça a fait un effet de domino. Il faut savoir, quand on retrouve les vieux ouvrages à l'époque de Napoléon, quand il est en campagne en Égypte,
oui.
Il y avait déjà des ouvrages où on retrouve, par exemple, le haschich, qui n'est pas pareil que le cannabis, hein, c'est la résine de cannabis, mais qui n'a pas le même effet quand on absorbe du cannabis, fume du cannabis et que tu fumes du hasch, qui est beaucoup plus fort, qui a un effet qui est différent, qui est beaucoup plus concentré. Donc il y avait déjà quand même des choses, des signaux qui montraient que ça ne plaisait pas aux autorités. Pourquoi ? Parce que c'est un démotivateur. Donc quand tu demandais à... Quand les pouvoirs publics savaient que tel groupe de personnes fumait du matin au soir et qu'ils ne pouvaient pas faire telle tâche, donc ils ont commencé aussi à légiférer.
Pour les empêcher.
Oui, par exemple, il y avait ça en Afrique du Nord à une certaine époque. Malgré que ça soit dans la culture orientale, on va dire, dans la culture en Égypte, dans la culture au Maroc, en Inde, dans beaucoup de pays, c'est difficile de séparer la culture du cannabis, du haschich, avec les cultures populaires, ancestrales. Mais il y a eu quand même des moments, plutôt vers le 19e, 18e, 19e. Donc ça reste tout de même, ça reste tard dans l'histoire humaine.
Oui.
Mais l'histoire avec les lois françaises et la loi qui interdit, en fait, ça a commencé avec l'interdiction de tout. Les boutiques, tous ceux qui commercialisaient les plantes qui servaient de médicaments. Ça a commencé quand ils ont synthétisé... Oui, la ressource, pas seulement du cannabis ou de l'opium et de la cocaïne, mais aussi de toutes les plantes médicinales, en fait. Les plantes médicinales, il y en a des milliers. Quand ils ont commencé à faire des découvertes et à synthétiser ces plantes, que les législations, elles se sont greffées là-dessus.
Aïe.
Et le cannabis... Parlons déjà du cannabis. Le cannabis, il y a le problème avec le cannabis, c'est que c'est un démotivateur. Ça veut dire que sur certaines personnes, il y a des effets secondaires qui ralentissent les réactions cognitives du cerveau, puisqu'elles se dirigent vers les choses qui les intéressent, par exemple. Ah. Ça veut dire que tu peux faire une tâche, si tu as envie de jouer de la guitare, parce que tu adores jouer de la guitare, que tu fumes et que ça te fait jouer, ça peut avoir un effet qui est extraordinaire, qui continue, tu peux continuer à jouer parce que justement ça t'inspire, que ça ne t'empêche pas de jouer. Mais si on te demande de faire de la comptabilité, ben écoute, ça va être plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc ce qu'ils ont vu, l'histoire de la cocaïne, c'est différent. Mm-hmm. L'histoire, parce que c'était vraiment des médicaments qui étaient utilisés avant qu'ils découvrent d'autres types de synthèses qui pouvaient anesthésier le corps. Mm-hmm. Pareil pour les problèmes de dents, les problèmes d'opérations chirurgicales. Ils utilisaient l'opium, ils utilisaient les opiacés et la cocaïne parce que c'était les premières découvertes. Quand ils ont découvert d'autres plantes et d'autres systèmes synthétiques, ça a été petit à petit remplacé, mais ça a quand même pris du temps. Mais ce n'était pas la même histoire. Donc chaque drogue, ah, c'est vrai, a une histoire. On n'a pas parlé non plus du LSD ou des drogues psychédéliques.
On a le temps.
Qui est encore un autre sujet. Mm-hmm. Mais pour revenir sur le cannabis, c'est assez emblématique, on va dire, d'une drogue qui est appréciée, qui est une drogue gentille, qui rend les gens quand même assez gentils, mais qui... Suivant les doses, suivant la personne, suivant l'état d'esprit, suivant les problèmes psychologiques, les problèmes psychologiques de la personne qu'on ne peut pas déceler comme ça, il peut y avoir en effet des dommages et des problèmes. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles ont été diabolisées.
Mm-hmm. Alors, le XXe siècle, c'est à la fois les interdictions et le débat qui est censuré. Mais ça, on le verra en deuxième partie. J'ai découvert avec ton livre tous ceux, les grands, qui ont fait l'apologie des drogues. Ça va de Arthur Conan Doyle à même Aldous Huxley. J'ignorais Aldous Huxley qui fait un livre sur le LSD en 1955, s'il te plaît. Et tous les consommateurs célèbres. Et notamment, il y en a un qui a fait un livre sur la cocaïne, et c'est Sigmund Freud qui a signé la présentation. Waouh !
Il a même écrit tout un ouvrage sur la cocaïne.
Mais qu'il ait fait la présentation d'un livre qui fait l'apologie de l'utilisation de la cocaïne, waouh !
Alors en fait, ce n'est pas l'apologie, c'était légal.
Oui.
C'est l'époque où c'est légal pour la cocaïne avec Freud. Donc il fait l'expérience lui-même puisqu'il expérimente lui-même.
Il expérimente beaucoup de choses, Freud.
Ouais, il expérimente la cocaïne puisque c'est une époque, quand elle a été découverte, pour l'époque, c'était...
Légal, encore.
Mais c'est surtout que c'était une découverte révolutionnaire. Il pensait déjà qu'il pouvait résoudre les problèmes des morphinomanes.
Voilà.
Parce qu'ils avaient quand même... Ils avaient bien sûr... c'est impossible de pas le remarquer que les problèmes avec les opiacés, c'est l'addiction.
Tout à fait.
L'addiction physique, addiction mentale, mais très très physique avec le manque. Mmh. Donc ils pensaient résoudre des problèmes d'addiction de l'opium, de la morphine avec la cocaïne. D'abord, ça a été l'opium. Ils pensaient qu'avec la morphine, résoudre des problèmes d'addiction de l'opium, de morphine ou de l'héroïne. Après, l'héroïne a été créée en pensant qu'il pouvait soigner les problèmes d'addiction de la morphine avec l'héroïne.
Ouais.
Mais là, on est encore dans cette période qui est avant les années 30, où toutes ces découvertes synthétiques, quand ils ont synthétisé toutes ces substances organiques, donc ils faisaient des expériences, ils n'avaient pas du tout de recul. Ils ont été utilisés, suivant les périodes, comme des armes aussi pour pouvoir...
Ça, l'armée s'en est servie.
Mais bien sûr. Alors, l'armée s'est surtout servie des amphétamines. Il y a eu, en effet, l'opium qui a été utilisé, les soupes d'opium comme ça qui donnaient au peuple, fameuses soupes.
Guerre de l'opium pour conquérir la Chine.
Alors ça, c'est encore un autre volet, mais en Europe, ça a été utilisé surtout avec... Ce qui a été utilisé, c'est la pervertine, les amphétamines, qui ont été découvertes par un chimiste en Roumanie. Ensuite, l'Allemagne l'a utilisé. Les Japonais aussi l'ont utilisé. Les Alliés aussi l'ont utilisé pour speeder les troupes, pour pouvoir tenir dans les vols long courrier en avion.
Voilà. Et c'était pour le Normandie-Yémen, par exemple.
Pour l'endurance. Alors les nazis ont utilisé leur propre... Les Américains, les Anglo-Saxons ont utilisé la benzédrine et les autres ont utilisé la pervertine. Mais en fait, ils l'ont utilisé en même temps. Mm-hmm. Pas de la même manière, mais c'était quand même pour les guerres. Et sur l'histoire de l'Allemagne nazie, ça a été des millions de capsules qui ont été distribuées.
Tout à fait.
déjà à l'époque. Hein. Donc les amphétamines, c'est encore un autre volet, parce que ça, c'est une drogue synthétique. Hein.
Voilà.
C'est pas une drogue organique. Mais j'ai quand même parlé des drogues, de toutes les drogues, pas seulement les organiques.
C'est ça qui est formidable dans cet almanach. Vraiment, il faut l'avoir dans sa bibliothèque et il faut le faire consulter à tous ceux qui racontent tout et n'importe quoi. Je pense à certains ministres de l'Intérieur, précédents ou actuels, qui racontent tout et n'importe quoi sur les drogues. Alors, pour information, vous avez une excellente émission sur Radio Libertaire qui s'appelle La fumée dans le poste, qui est tous les dimanches à 18h30, où justement, on fait l'état des lieux de ce qu'il faut savoir et dire sur les drogues. Donc, je vous le recommande. C'est une émission que j'écoute attentivement. Et j'aime beaucoup l'animateur et son technicien. Je les embrasse. Alors, revenons à toi, Judith. L'addiction, tu en donnes une définition et tu la différencies de accro. Tu dis que avoir une addiction, c'est pas la même chose que d'être accro à quelque chose.
Alors, c'est des termes un petit peu qu'on utilisait quand on se défonçait, j'avoue.
Voilà.
Que le terme accroché, il y a quelque chose qui est beaucoup plus psychosomatique, peut-être.
Voilà, tout à fait. Et ça, j'ai bien aimé. Tu as donné plein de définitions. Et ce que je voudrais, c'est que on revienne sur. Comment dire, tout ce qui est circuit de la récompense pour les dopamines. Parce que ça, tu en parles, et ça, c'est très peu connu, parce que le circuit de la récompense, j'ai vu parce que j'ai travaillé dans une banque quand j'étais plus jeune, les traders, quand ils font des opérations et qu'ils les réussissent, c'est aussi le circuit de la récompense qui est mis. Et on voit on le voit quand on fait des scanners, on voit que ce sont les mêmes circuits. Donc,
alors, c'est un truc que j'ai découvert à force d'étudier, justement, parce que je cherchais, quand j'ai écrit ce bouquin, je voulais vraiment croiser les sources pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Et je voulais vraiment comprendre moi-même ce qui m'était arrivé, puisque j'avais beaucoup plus de recul, puisque j'étais sortie des addictions et des trucs, des réflexes de accro, c'est-à-dire vraiment de l'idée d'être, même quand on n'est pas défoncé, de vouloir à tout prix être dans un état second, ou d'être dans la tête, comme ça, accroché à quelque chose. Et quand j'ai découvert qu'il y avait dans notre cerveau plusieurs circuits, dont l'adrénaline, l'oxytocine, ça c'est le truc de l'amour, mais il y avait l'adrénaline, l'endorphine,
voilà,
la dopamine, le fameux système endocannabinoïde,
tout à fait,
le SEC, la dopamine et la sérotonine.
Voilà.
On va dire déjà 5.
Bien, bien, bien côté.
Alors, c'est vrai que, par exemple, l'endorphine, c'est ce qui nous permet de ne pas souffrir quand on nous pince la peau ou quand on reçoit un tout petit coup comme ça. Donc, c'est on a un système dans le cerveau de morphine naturelle, ce qu'ils appellent l'endorphine. Quand on prend de l'héroïne, de la morphine ou de l'opium, à partir du moment où on en prend régulièrement, tous les jours, pas quand on n'en prend qu'une seule fois, ça c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui laissent penser que si on en prend une seule fois, on fait un test, et qu'on va être accro à vie. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment l'addiction qui arrive au bout d'un moment, qui s'installe dans le corps et qui catalyse le système endorphine du cerveau, ce qui fait que quand on n'a plus de substances organiques, c'est-à-dire quand on n'a plus les lignes d'héroïne qui rentrent dans notre cerveau, dans notre corps, et quand on n'a plus de substances, eh ben c'est là que le manque intervient. Tout d'un coup, le corps, il est transi. On est totalement sous domination de ce manque. Et notre système, de cette petite usine qu'on a dans le cerveau, elle est arrêtée. Et c'est pour ça qu'on souffre. On a des symptômes qui ressemblent à une grippe ou à un gros rhume. Tout d'un coup, on a froid parce que notre corps, il est déconnecté de notre propre système naturel. Et pour pouvoir le retrouver, il faut... Première étape, le sevrage. Et ensuite, ça, je parle vraiment d'une addiction profonde. Après, c'est un sevrage du corps médical, c'est-à-dire de sortir du corps ce manque.
Voilà.
Et surtout, ensuite, c'est de refaire démarrer l'usine endorphine. Et c'est ça qui fait que il y a certaines drogues qui touchent certains points.
Voilà.
Donc la morphine, l'opium, les opiacés, c'est le système endorphine. Le cannabis, on a un système endocannabinoïde.
Voilà.
Le sérotonine serait plutôt la cocaïne. Mm-hmm. La dopamine aussi. Les psychédéliques, ça touche aussi la sérotonine et, et la dopamine. Et il y a aussi ce truc d'adrénaline qu'on retrouve un petit peu des fois dans la cocaïne, suivant ou dans le speed.
Voilà.
C'est surtout les amphétamines. Mm-hmm. Par exemple, quand tu donnais l'exemple de ce trader qui a fait un jackpot à la bourse, il a une montée d'adrénaline.
Ouais.
Voilà. Donc ouais.
C'est incroyable.
Et ça touche aussi la sexualité.
Tout à fait. Ça, tu le montres bien dans une partie excellente.
Très importante.
Très importante.
De parler de ça, c'est très important de ne pas mettre de côté la sexualité parce que certaines drogues, justement, annihilent le désir sexuel, d'autres le stimulent et d'autres l'annihilent au début puis après le reboostent. Enfin, c'est vraiment...
complexe.
C'est pas du tout, voilà, et c'est pas du tout simple, mais en même temps, le fait de l'aborder, d'en parler, de le communiquer, de le transmettre, ça permet aux gens de comprendre et il faut arriver à leur dire de manière assez simple, avec des exemples concrets pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche.
Et l'almanach Speedball est excellent pour ça. Alors, Judith, nous allons faire une pause et nous allons revenir. En deuxième partie, on va expliquer le débat qui est censuré et l'échec de la lutte contre la guerre aux drogues.
la way, oh Milo Malo. If you want to go wash, now what are you going to use? To pas faire ses bêtes, oh Milo Malo. If you want to cook soup, now what are you going to use? To be bang bono, oh Milo. If your head is hot, now what are you going to use? Toma bandagba, oh Milo Malo. If your child they grow, now what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? No, no, no. Tomi back mama way, oh me no lo malo. Cause some to le shake, oh malo mi oh. Nothing without water. Cause some to le shake, oh malo mi oh.
Thank you.
Chers auditeurs de La Rage de Dents, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Judith Couche sur Speedball, une histoire illustrée des drogues. Alors Judith, la répression, la guerre aux drogues, c'est un échec. Pourquoi ?
C'est un échec. Quand on fait le bilan depuis la législation de la loi L70, on voit tout à fait ce qui s'est passé à travers les continents. Ça a commencé avec d'abord, ça a commencé avec la guerre contre les drogués. De Nixon, il y a eu Nixon avait déclaré une guerre contre les drogués aux États-Unis.
Tout à fait.
Et il y avait des événements qui se sont passés aussi en France, quand une gamine a été retrouvée morte après une injection d'héroïne et qu'elle a fait une overdose. Donc il y a eu toute une forme de panique qui peut être compréhensible, bien sûr, qui est compréhensible, puisque c'est des substances qui tournaient dans les milieux, pas alternatifs, on n'utilisait pas ces termes, dans les milieux vraiment... Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, donc c'était des milieux très particuliers, c'était assez clandestin. Mais c'était diabolisé puisqu'il y avait des drames. Les drames, c'était au-delà de l'addiction, c'était en effet beaucoup de gens qui faisaient des overdoses. Donc tout d'un coup, c'était pas une guerre contre les drogues, c'était une guerre contre la drogue. Donc tout ce qui était illégal, cannabis, cocaïne, héroïne, morphine, LSD, était considéré comme la drogue. Et c'était au même niveau. Il y a eu aussi des ouvrages comme par exemple le fameux roman L'Herbe Bleue, qui est un livre qui a été totalement inventé, qui est une histoire qui est fausse.
Oui, c'est un fake.
Qui a été inventé par la personne qui en parle. Elle invente une histoire avec un drame qui se passe autour du LSD. Donc toute cette littérature, elle tournait dans le monde occidental, elle tournait dans certains milieux, de gens qui étaient vraiment branchés sur les drogues, et il y a eu un impact sur les esprits, et ça a été aussi une occasion pour les pouvoirs publics de contrôler la jeunesse, de contrôler les gens qui avaient un contact direct avec toutes ces histoires de drogue. Donc on n'était pas encore à un niveau de trafic industriel international comme
maintenant,
comme aujourd'hui avec les narcotrafics, mais il y avait des tas de problèmes qui surgissaient dans la société, et on retrouve toujours le même thème, qui est que pour les pouvoirs publics, les drogues sont des outils de déconnexion avec la loi et l'ordre, donc qui donnent à des individus des excuses ou des moyens de sortir du droit, c'est-à-dire de sortir de l'ordre plutôt, pas du droit, de l'ordre. Et donc ça dérange les pouvoirs publics, puisque c'est des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler.
Tout à fait. L'État veut tout contrôler dans nos vies,
et voilà,
nos portefeuilles, donc par conséquent...
Et notre manière aussi de nous soigner. Donc tout l'aspect médical était invisibilisé, et l'aspect récréatif n'était pas compris. Donc, ça a commencé comme ça. Alors qu'il y avait des expériences psychédéliques en France jusqu'en 61 avec la psilocybine dans le cadre de démarches médicales. En 61, ça a été interdit. Ils ont arrêté les expériences. Ensuite, il y a eu cette loi suite à tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guerre contre les drogués. Ça, c'était dans les années 60, fin 60, début 70. Et c'est là que ça a commencé. Ensuite, ça a évolué de cette guerre contre les drogués. Ensuite, de cette guerre contre les drogués, on est allé vers, de plus en plus vers, heureusement, une guerre contre les drogues, je dirais, et pas contre les individus, puisqu'on les a plus considérés comme des victimes et pas comme des criminels. Mais la première époque de la guerre contre les drogués, c'était vraiment les considérer comme des criminels.
Alors, le virage pour s'attaquer au narcotrafic et s'attaquer aux véritables dealers, entre guillemets, il date de quand ?
La lutte contre... la répression contre les drogués...
C'est 90, hein, je crois, les années 90 ?
Alors non, parce que dans les années 70...
Avec la French Connection, autant pour moi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années, il y avait déjà, bien sûr, qu'il y avait déjà toute une partie de la mafia qui avait vu le pactole avec le fait que les gens s'accrochent à l'opium, enfin, je veux dire, à la morphine, à l'héroïne surtout. Mm-hmm. Donc, il y avait un pactole, d'accord. Mais les gens qui tombaient, les gens qui se faisaient arrêter dans les années 70, ils étaient souvent... le drogué était souvent... aussi le dealer, puisqu'il fallait qu'il se pour trouver des substances, il était en contact avec des revendeurs et c'était encore un niveau artisanal. Le contact avec les mafias, il se faisait, mais on n'avait pas accès. Les gens qui avaient contact avec les mafias qui revendaient la French Connection, par exemple à Marseille, c'était vraiment des filières, la fin de la filière, c'est-à-dire la fin de la chaîne, le mec qui se fixait de l'héroïne ou qui se l'effait de l'héroïne, il n'avait pas du tout contact avec les filières qui vendaient. Et en plus, il ne prenait pas ça, il ne touchait pas. Donc, c'était très difficile d'arriver à entrer dans le système. Mais les premières personnes qui ont subi cette répression, c'était souvent des gens. Moi, j'ai connu des gens, maintenant, qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui sont allés en prison parce qu'ils se fixaient à la morphine. Mmh. Et ils ont fait de la prison parce qu'ils avaient de l'héroïne ou de la morphine et qu'ils étaient considérés comme des trafiquants. D'accord. Et comme des trafiquants et comme pas seulement des drogués.
Bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, l'échec, il est dû à quoi ? Manque de moyens ? Manque de prévention ? C'est plus, ou bien le refus de ce que tu appelles les alternatives.
Les alternatives ?
Oui, à un moment donné, tu parles...
Des thérapies alternatives ?
Les thérapies alternatives, excuse-moi.
Alors, les thérapies alternatives, c'est encore autre chose, parce que ce n'est pas le refus des thérapies alternatives. Je pense que la première cause de l'échec de la répression sur les drogues, c'est de refuser déjà de comprendre pourquoi les gens se droguent.
Voilà.
C'est la première des choses.
C'est la psychologie.
C'est la psychologie, puisque on leur...
C'est le manque de psychologie.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, il vient de l'aspect licite et illicite. Comme ces médicaments, drogues, sont des substances illicites, donc l'État, le gouvernement, les puissances médicales, enfin les puissances gouvernementales, les pouvoirs publics, suivent une loi stricte. À partir du moment où on leur explique que, par exemple, se soigner avec des drogues illicites, ça peut guérir certains problèmes, ils ne veulent rien savoir. Donc, eux, ils suivent une loi.
Bah oui, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt financier.
Il y a l'intérêt financier et il y a aussi le fait qu'ils auraient très bien pu, finalement, comme ils avaient fait il y a 100 ans auparavant, légaliser, puisqu'elles étaient légales, ces drogues.
Tout à fait.
La cocaïne, l'héroïne, fut un temps légale. Mais... il n'y a pas que l'histoire de l'intérêt financier. Je pense qu'il y a vraiment un aspect moral, pour moi.
C'est une guerre culturelle ?
Il y a un truc moral, je dirais, au-delà de la guerre culturelle, il y a quelque chose de moral. Mm-hmm. C'est-à-dire, les drogues, ça correspond à des fantasmes, ça correspond à... Bon, le narcotrafic, ça, d'accord, mais c'est très récent. Il y a bien sûr eu toujours des mafias, on le voit avec la French Connection, mais il y a l'aspect moral qui est lié à la sexualité, qui est lié aux États-Unis, c'était les Mexicains, avec l'aspect raciste, que la marijuana, la fameuse Marie-Jeanne, ça veut dire que ceux qui fumaient de l'herbe, ils étaient considérés comme aller contre l'ordre moral, à traîner les femmes blondes qui traînaient avec des hommes noirs ou des Mexicains, parce que le cannabis les rendait complètement désinhibés accro. Sexuellement, par exemple. Donc, c'était lié à la morale religieuse ou à la morale...
Sociétale.
Et aussi le fait qu'ils refusent de voir que bien sûr qu'il y a une industrie, c'est-à-dire qu'il y a une économie, on va dire, plutôt, que l'industrie, c'est plutôt aujourd'hui, mais il y avait une économie, et que cette économie, ça leur échappe.
Voilà.
Donc, ils faisaient agir des deux côtés, c'est-à-dire l'aspect moral, l'aspect économique, donc ça veut dire qu'on va contre l'État, donc c'est comme si on faisait du marché...
noir.
Ouais, c'est-à-dire du marché illicite, c'est-à-dire du trafic, du trafic, ça peut être de n'importe quel produit, mais l'aspect moral, et aussi le fait de ne pas maîtriser les effets secondaires et de montrer toutes ces drogues comme que des choses qui sont négatives, avec des exemples qui pouvaient être flippants, surtout au niveau des drogues comme des surdoses de LSD et des addictions avec les opiacés. Mmh. Parce que le problème avec les opiacés, c'est en effet l'addiction, le fait de plus pouvoir, de vraiment se retrouver dans une situation de terrible. Et le problème avec les psychédéliques, c'est certaines personnes qui étaient en surdose et qui ne pouvaient plus maîtriser et qui pouvaient rester, comme on disait à l'époque, il n'est pas redescendu de son trip. Quoi.
Tout à fait. Alors, c'est un échec
moral.
Moral. C'est un échec social.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que l'échec moral et social, c'est d'avoir refusé de chercher déjà à comprendre les substances, à rentrer en contact vraiment avec les gens concernés, mmh. au-delà des critères médicaux
Afin de mieux les aider.
Afin de vraiment essayer de comprendre, ouais, de les aider, et de refuser de toujours les considérer comme des criminels, presque. Mmh. De les classer dans un no man's land, on va dire.
Juridique.
Un no man's land juridique répressif, extrêmement répressif. Ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps à moi-même à pouvoir en parler.
Mmh, d'accord. Alors, c'est un échec social, culturel. Le bilan de tout ça, ça te l'explique bien dans ton almanach.
Alors, le bilan, heureusement que la société, elle a évolué avec le temps. Il y a des constats qui ont été faits, mmh. et qu'on est passé de la criminalisation des drogués à la sensibilisation de les montrer comme des gens plutôt malades, on va dire. Mmh. Ça, c'est le premier aspect. La première étape, c'est d'accepter que c'est quelqu'un qui est accroché, qui est addict...
est une victime avant tout.
Est une victime avant tout, exactement. Donc ça, c'est le premier... Cette reconnaissance d'avoir accepté de proposer des traitements de substitution aux opiacés... pour pouvoir sortir les victimes, éventuelles victimes, mm-hmm. de ce système d'addiction qui était pour eux un esclavage. Je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je m'en suis sortie, mais que ça a été quand même très très difficile, puisque quand on n'avait pas de substitution de médicaments, on était tout le temps obligé de trouver des alternatives qui n'étaient pas toujours très terribles pour la santé. Quoi.
Mm-hmm. Alors, à partir du moment où ceux qui sont addicts sont des victimes, la société change de regard. Donc, elle considère que ça devient un problème de santé publique. Donc, est-ce que pour autant, ça, médicalement, ça suit ?
C'est très compliqué.
Eh oui.
Parce que,
ça, tu l'expliques bien dans
voilà,
ton livre.
C'est très compliqué parce que le progrès, c'est d'avoir reconnu que c'est un problème de santé publique. Ensuite, d'abord, il y a d'autres drogues qui sont arrivées synthétiques.
Voilà.
Dans ces, on va dire, 20 dernières années, mm-hmm. qui se sont rajoutées aux autres. Et,
qui sont pires.
Qui sont pires, à mon sens. Toutes les drogues synthétiques sont beaucoup plus dangereuses que les drogues organiques. C'est beaucoup plus facile de décrocher d'une drogue organique que de décrocher d'une drogue synthétique. Que ce soit les buprénophènes, tous les anxiolytiques... les antidépresseurs, tous les trucs synthétiques. C'est beaucoup plus difficile de décrocher des drogues légales, même, je dirais, hein, que de décrocher du cannabis, même de l'héroïne. Après, quand on n'avait pas de médicaments, nous, on avait des méthodes qu'on appelait les méthodes chinoises, c'était de dégraisser. Bon, il y avait plein de petits trucs. On prenait de la codéine, on trouvait des médicaments à base d'opium quand il y en avait encore. Donc, il y avait ce système de décrochage comme ça. Mais le plus difficile, c'était la réinsertion sociale de la personne au niveau de la société. Mm-hmm. Donc, il y a toujours ce problème-là. Et c'est pour ça que le fait qu'ils aient reconnu qu'il y a un problème de santé publique, ça a été quand même une évolution. Ensuite, il y a eu l'histoire de donner des médicaments, c'est-à-dire des substances, des substitutions pour les opiacés. Ça a été aussi quand même une grande révolution.
D'accord.
Parce que beaucoup de gens sont totalement sortis de ces addictions. Puis la troisième étape, ça a été de passer par des aides psychologiques, des psychothérapies de groupe comme Narcotique Anonyme ou d'autres systèmes. Narcotique Anonyme, c'est une des plus efficaces qui a permis aux gens de sortir dans leur tête de ce truc d'être accro, d'être totalement sous emprise mentalement des drogues, en particulier les opiacés. Après, il y a eu l'alcool, bien sûr. pour certains, l'alcool et la cocaïne. Malheureusement, la cocaïne, il n'y a pas de substitution. Donc, c'est le problème avec la cocaïne, c'est qu'il n'existe pas de substitution à la cocaïne. Certains boivent beaucoup de café, d'autres prennent des amphétamines. Mais bon, si on arrête la cocaïne pour prendre des amphétamines, je pense que c'est tout droit pour aller dans le trou, quoi.
Oui.
C'est pire.
Alors, donc, s'il fallait résumer ton almanach et résumer la démarche, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent ont très certainement dans leur entourage des gens qui sont accros, addicts, si on veut être branché. Le problème, il est psychologique. Donc, il faut déjà admettre de se poser la question de savoir pourquoi la personne a besoin de se droguer, si j'ai bien résumé.
Alors,
si j'ai bien retenu.
Oui, alors je dirais qu'il y a trois points sur l'histoire des drogues. Il y a l'aspect médical.
Voilà.
L'aspect psychologique, donc les raisons pour lesquelles telle personne a besoin de drogue pour...
Tenir,
pour la performance, pour supprimer certaines douleurs. Donc ça, c'est l'aspect médical, psychologiquement comme physiquement. Et puis, il y a l'aspect qui est pas reconnu, qui est récréatif.
Mm-hmm.
Et l'aspect récréatif, je pense que c'est le dernier stade qui va être... qui est beaucoup plus long.
Mm-hmm.
Et qui est pas encore, surtout en France, je pense au cannabis, qui est toujours pas reconnu, qui pose un vrai problème.
D'accord.
Parce que l'aspect récréatif a été reconnu, notamment en Californie.
Oui.
Dans les dernières législations sur les lois après le cannabis médical, ils ont reconnu que l'aspect qu'il y a un aspect récréatif avec le cannabis. L'aspect récréatif, c'est ce qui est le plus difficile. Bon, pour le cannabis. Mais après, bien sûr, là, il y a un problème de pénalisation des usagers de drogue et de toutes les drogues. C'est, la dépénalisation, elle n'existe pas vraiment.
Non.
Elle est acceptée de fait parce qu'il y en a trop. Donc, c'est incontrôlable pour les pouvoirs publics. Mais dans la réalité, si on veut emmerder quelqu'un, on peut très bien l'emmerder à partir du moment où on apprend qu'il a fait tel truc et qu'il est en plus sous effet psychoactif de telle ou telle drogue.
Tout à fait. Bien. Judith, je rappelle le titre de ton ouvrage que tu as produit toi-même, Speedball, une histoire illustrée des drogues. Donc, il vaut la somme modique de 30 euros, mais vraiment, rien que l'iconographie, c'est merveilleux. Les textes, l'engagement, les conseils. Donc, on peut l'avoir dans des librairies bien précises et surtout à Publico.
Bah, oui, il n'y en a que deux. Il y a Librairie Parallèle et Publico.
Voilà, donc, parfait. Donc, Publico. Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf, République ou Fille du Calvaire. Judith, je te remercie infiniment d'être venue.
J'ai juste un mot à dire par rapport le plus important, c'est... comme je l'expliquais au début de la conversation, ce livre n'a pas été fait pour inciter les gens à expérimenter ou à vraiment montrer les drogues sous un aspect favorable et positif. Parce qu'il n'y a pas... Les drogues sont des révélateurs. Et il y a des dangers. Mmh. Donc je ne suis pas dans une optique de dire que c'est tout à fait le contraire. Non, il y a vraiment des dangers. Justement, le fait d'en parler, de d'écrire ce livre... et de prévenir des risques, c'est pas non plus facile. Il y a des gens, suivant les personnes, qui peuvent vraiment avoir des problèmes, comme d'ailleurs d'autres drogues illicites. Hein. Mmh. Celles-ci sont illicites, mais l'objectif, c'est justement de montrer tous les aspects.
Oui. Et la bataille contre quelque chose, ça commence par l'information. Il faut d'abord s'informer. Et l'almanach est très bien fait. Et je te remercie d'être venue en parler à nos auditeurs, Judith.
Merci à toi.
Je t'en prie. On va remercier notre cher technicien. Merci.
Merci.
Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci.
Merci.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, si les rainettes. pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Oh,